Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Nous sommes bénis, tellement, tellement bénis, tellement heureux, honorés aussi de voir les assemblées qui se rassemblent pour célébrer d'un même cœur l'Éternel et pour bénir la ville de Troyes et son agglomération et le département de l'Aube. C'est un nom porteur d'une vision prophétique. Amen. Et nous prions que Dieu fasse grâce à notre pays et que dans ce département, eh bien, Dieu multiplie. Amen. Dieu soit béni pour le travail de vos pasteurs. Je suis très content de voir le pasteur Renato, Antonio, pour cet esprit d'unité, ce désir de voir le royaume de Dieu progresser au-delà des étiquettes dénominationnelles. Notre but, c'est que le royaume de Dieu s'étende et que les vies soient changées. Et que ce département soit transformé par la puissance du Saint-Esprit. Mon épouse se tient à l'arrière de la salle, pourrait la saluer à la fin si vous le souhaitez, pourrait passer près du stand. Nous avons trié sur le volet quelques ouvrages de la Gospel Vision Academy, notre centre de formation qui est en plein développement. Vous avez notre petit dernier qui est toute une étude sur les dons spirituels. Donc tous ces dons, nous sommes des pentecôtistes, amen. Est-ce qu'il y a des pentecôtistes dans la salle? Amen. Alors les dons d'inspiration, de révélation et de puissance, toute une étude approfondie avec de nombreuses expériences vécues dans le monde concernant ces manifestations du Saint-Esprit, avec à chaque fois un éclairage pertinent, avec le regard des grands revivalistes, Wigglesworth, Donald G., Harold Orton, Lester Sumrall, tous ces gens qui ont été utilisés par le Saint-Esprit, qui se sont exprimés sur la question des dons spirituels. C'est pourquoi n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur le stand à l'issue. Il y a aussi un maxi-book sur la guérison divine, un autre sur la guérison intérieure. Et puis, nous avons, pour célébrer nos 30 ans de ministère l'année dernière, nous avons publié aussi « Secret d'un ministère de puissance » puisque ça retrace tellement d'expériences vécues dans près de 50 pays où le Seigneur a été tellement bon et merveilleux. Et il n'a pas fini, il va continuer. Amen. Vous avez notre site internet pour ceux qui souhaitent nous retrouver dans le cadre de nos émissions de télévision, puisque, comme le disait votre pasteur, à Troyes, il y a des œuvres qui se développent, non seulement ce temple, et nous rendons grâce au Seigneur, l'œuvre au travers de ce temple, mais aussi notre base missionnaire qui se trouve à Sainte-Savine, rue de la Maladière. Nous avons à l'intérieur de nos studios de télévision plusieurs plateaux techniques, des régies de télévision, et notre frère Edouard Buck est en charge de ce département. Il n'aurait jamais imaginé qu'en venant à Troyes, il allait se retrouver à réaliser des émissions, à les envoyer dans le monde. Et nous avons des diffuseurs qui viennent se servir dans nos bandes de stockage, que ce soit TBN, que ce soit EMCI TV ou Dieu TV, toute une pléiade, pas loin d'une dizaine de partenaires qui diffusent dans bien des pays, sur les chaînes satellitaires, sur des chaînes même hertziennes nationales. Ces émissions diffusent et nous touchons des milliers, des centaines de milliers de personnes. D'ailleurs, lorsque j'étais au Burkina Faso, il y a quelques mois, j'étais à l'intérieur du pays, près du lac de Kongoussi, dans une petite ville, une ville rurale, donc dans un petit hôtel. Et en mettant la télévision avec le patron, il montrait comment ça marchait. J'ai vu Canal Plus Afrique. Et en ouvrant la télévision, tout à coup, eh bien, j'étais à l'image et j'ai pu évangéliser le patron, lui dire « Regardez, c'est moi qui suis là, il a été surpris de me voir dans cette petite chambre et au plein cœur de l'Afrique, nos émissions qui étaient diffusées. » J'avais sous mes yeux le fruit du travail qui est fait dans nos studios de télévision. Dieu est bon. Et puis, EMCI TV travaille à gagner de plus en plus d'espace pour diffuser l'Évangile. Et nous sommes avec le frère Sourdril, avec le frère aussi qui est à la tête de cette organisation, nous sommes en connexion ensemble pour diffuser cet évangile. Vous avez une rubrique SOS prière, si vous avez besoin de prière, sur notre site www.gospelvision-international.com. Vous pouvez trouver l'adresse sur le feuillet. Je vais demander à Edouard de distribuer les feuillets. Tu veux, Edouard, me rendre service et distribuer à chacun le défi de notre ministère. Vous pouvez donc, sur l'URL et sur ce feuillet, vous pouvez donc aller voir nos émissions. Vous pouvez aussi mettre vos sujets de prière. Demandez la prière et c'est Kirsten Buck qui est en charge du département prière et qui répond à tous les sujets que nous recevons. Il y en a tellement. Vous pouvez télécharger gratuitement un livre en PDF, Le guerrier de prière. Allez vous inscrire, c'est gratuit. Pas pendant le culte, après le culte, cet après-midi chez vous. Hein. Vous irez vous inscrire et vous pourrez télécharger ce livre. Je vous informe que les 11 et 12, nous sommes chez le pasteur Renato Bastos au Temple évangélique. Je remercie les membres du Temple évangélique pour leur hospitalité et leur pasteur. Et aussi Adramita, aussi pasteur de l'Assemblée. Merci pour votre amitié. Nous avons beaucoup d'inscriptions. On va faire le plein dans quelques jours. Et ça vient de partout. Ça vient de Belgique, ça vient de Suisse. Et les locaux vont être... On va être bientôt à l'étroit et on prie que nos travaux puissent avancer. Donc nous sommes dans une période de travaux sur notre base missionnaire. Si vous voulez nous aider, nous sommes propriétaires de la base. On a 1200 m2, on rénove actuellement 500 m2 pour accueillir 700 m2 pardon pour accueillir près de 500 personnes pour des séminaires, pour créer le centre Gospel Vision de formation, le Gospel Vision Center, le centre Gospel Vision de formation à l'évangélisation, au réveil, au renouveau de Pentecôte pour l'Europe de l'Ouest. Donc on a vraiment investi plus de 700 000 euros avec l'achat, avec les travaux. Il nous manque maintenant pour la finition. On prie pour 140 000 euros. Alors si vous avez 140 000 euros sur votre compte, il se peut que le Seigneur vous parle ce matin. Amen. Peut-être que vous allez recevoir un fardeau tout à coup et nous bénir. Non, priez pour cela. On a eu un don de 50 000 euros il y a quelques semaines qui nous a permis d'entamer la phase de placo à l'intérieur. Mais il nous faut encore 140 000. Priez pour cela. Et vous pouvez nous aider aussi en devenant partenaire. Alors je sais quelqu'un dira, vous parlez d'argent. Ben oui, mais dans l'islam, il parle d'argent aussi. Dans le bouddhisme, il parle d'argent. Et c'est le nerf de la guerre. Mais on parle pas. Mon but, c'est pas d'avoir de l'argent. C'est d'avoir des partenaires. Je ne veux pas d'argent. Je veux des partenaires. Les partenaires, c'est pas pareil. Quand ils donnent, ils prient pour l'argent qu'ils donnent. Notre but, c'est pas d'accumuler de l'argent. C'est de redistribuer les finances pour que le royaume de Dieu avance. Vous pouvez devenir partenaire. On a mis la base à 20 euros. Vous pouvez faire plus, bien sûr. Ne vous gênez pas. On sera content. Mais soutenez les évangélistes francophones. Amen. On prie pour l'évangélisation. C'est bien d'avoir des temples mais il faut soutenir les évangélistes qui sont sur le terrain. On était en Côte d'Ivoire il y a quelques mois, au Burkina, à l'intérieur du pays, avec des hommes en armes. 24 heures sur 24, j'ai des hommes avec des armes automatiques qui graissent les armes. J'entends les chargeurs, j'entends ça toute la nuit pendant que je suis dans mon lit, parce que le gouvernement exige que je sois protégé dans les endroits où je prêche l'évangile. Mais nous rêvons avec mon épouse de tenir pratiquement tous les deux mois des campagnes de masse et atteindre 20, 40 à 50 000 personnes tous les deux mois dans des campagnes d'évangélisation. Il nous faut 1000 partenaires pour atteindre cet objectif. En trois mois, nous en avons une centaine des francophones qui sont engagés. Alors, et des Français. Alors, si vous avez à cœur, peut-être que vous soutenez cette église, et il le faut. Soutenez votre église. Ne m'envoyez pas votre dîme. Non. Mais si vous voulez soutenir un évangéliste français, faites-le. Votre soutien nous permet d'atteindre les âmes. L'argent ne vient pas dans ma poche, c'est pas des chèques à Franck Alexandre. C'est des chèques à une association qui est gérée par un commissaire aux comptes. Vous soutenez une œuvre d'évangélisation avec un francophone qui va dans le monde prêcher l'évangile. Alors, 20 euros, c'est peut-être une somme pour quelqu'un, pour d'autres un peu moins. Je le conçois. Même parfois, quelqu'un ne peut même pas donner 10 euros parce que la vie est dure, elle est difficile. Mais peut-être que cet acte de foi peut vous rapporter quelque chose. Dieu peut vous bénir de manière particulière sur le plan financier parce que vous allez semer aussi dans le royaume de Dieu et permettre ainsi à l'évangile de gagner du terrain. Voilà, vous ne pouvez pas le faire ce matin. Prenez le formulaire, Edouard vous l'a donné. Et puis réfléchissez à la maison, priez pour cela. Vous pouvez me contacter par Facebook, Franck et Liliana Alexandre. On a un compte, inscrivez-vous. Allez aimer cette page. De cette manière, vous recevrez toutes les nouvelles qui circulent sur Facebook. Et de cette manière, en message privé, vous pouvez me dire que vous voulez soutenir, vous pouvez envoyer des mails. Voilà, il y a beaucoup de possibilités de nous contacter ou à l'issue du service. Venez nous voir, on sera très content de vous compter au nombre des partenaires. Et dès que vous êtes partenaire, vous recevez tous les mois dans votre boîte mail la newsletter, les infos, les défis de prière, parce qu'on est en action en permanence. J'étais à Elbeuf il y a quelques jours à Vichy pour un rassemblement d'église la semaine dernière. Voilà, nous ne cessons. Et là, dans quelques jours, je serai aussi à Nice. Toutes les églises se rassemblent à Nice pour un impact beaucoup en France, mais aussi beaucoup à l'étranger. En fait, on est 24 heures sur 24 en action. On dort, on essaye de dormir un peu la nuit quand même. Voilà, les nuits sont courtes, Mais les temps sont courts. Les temps sont courts. Amen. Gloire au Seigneur. Allez, on passe à la parole. Gloire à Dieu. Nous allons continuer dans ce message qui touche à l'identité. L'identité. L'identité du croyant. Secret pour vivre une vie triomphante. Non pas une recette, mais des secrets. Puisque la Bible nous dit dans sa parole, dans Deutéronome 29, que Dieu révèle ses secrets à son peuple. Et à mesure que nous marchons avec le Seigneur illumine notre intelligence. C'est ce que dit Paul. Il prie que le Saint-Esprit illumine notre intelligence afin que nous puissions comprendre ce que Christ a accompli pour nous. Et je constate qu'il y a bien des chrétiens qui mordent la poussière, que Satan oppresse, que Satan maltraite, qui font face à un grand nombre de difficultés et qui n'opposent, qui ne peuvent manifester aucune opposition. Mais je crois que l'identité est déterminante concernant le positionnement. L'identité spirituelle détermine votre positionnement et votre positionnement va déterminer votre autorité sur le plan spirituel. Si je ne connais pas mon identité en tant qu'enfant de Dieu, si je ne sais pas quelle est mon identité, quelle sera ma position sur le plan spirituel et quelle sera mon autorité? Si vous êtes dans l'armée et puis que la nuit dans la caserne, vous croisez le général habillé en pyjama, vous allez le croiser, allez-vous le saluer ou pas si vous êtes un soldat? Moi, je vous recommande une chose, saluez-le quand même s'il est en pyjama. Parce que même en pyjama, il est général. Donc, mon général, certains ont fait le service militaire, il valait mieux les saluer quand on les croisait. Qu'il soit en uniforme avec ses galons, avec ses médailles, ou en pyjama, saluez toujours le général. Le général est général 24 heures sur 24, même quand il est dans son lit. C'est son identité. Et parce qu'il connaît son identité, il connaît sa position. Et s'il vous croise dans les couloirs et qu'il est en pyjama et que vous ne le saluez pas, il va vous appeler, il va vous demander de le saluer. Parce qu'il connaît quelle est sa position et il manifeste son autorité. Vous êtes des enfants de Dieu. Amen. Et nous chantons souvent « Je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu ». Amen. Et ça fait partie de votre identité. Vous êtes enfant de Dieu. Mais vous êtes aussi plus que cela. La Bible dit que vous êtes des rachetés. La Bible dit que vous êtes les agents du royaume de Dieu. La Bible dit que vous êtes les citoyens du ciel. Alléluia ! Citoyens, citoyens du royaume de Dieu. La Bible dit encore que vous êtes fils et filles de rois. Dieu soit béni. Si vous êtes enfants de Dieu, vous êtes fils et filles. Fils et filles d'un Dieu qui est roi. Amen. Alléluia. Dieu soit loué pour notre position. Nous avons vu aussi que nous étions des serviteurs. C'est ce que nous avons vu vendredi soir. Et hier, nous avons vu que nous sommes vainqueurs. Nous sommes des vainqueurs. Amen. Et la Bible dit même, plus que vainqueurs. Pourquoi? Quelqu'un pourrait dire, mais vainqueur, c'est suffisant. Si quelqu'un est vainqueur, il a gagné. Non, la Bible dit, vous êtes plus que vainqueurs. Pourquoi sommes-nous plus que vainqueurs? Eh bien, tout simplement parce que Jésus a gagné pour nous. C'est Jésus qui a remporté la bataille. C'est pourquoi nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Et ce matin, j'aimerais vous parler d'un autre domaine de votre identité. Vous êtes des guerriers. On l'a chanté. Vous êtes des guerriers. Amen. Amen, amen. Amen, 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 amen. Confesse-le, je suis un guerrier. Amen, je suis un guerrier. Le royaume de Dieu est pour ceux qui s'en emparent avec violence. Dis-le à ton voisin, le royaume de Dieu est pour ceux qui s'en emparent avec violence. Amen. Amen. Oh, hallelujah. Jésus a dit le royaume de Dieu aux pharisiens, aux chefs religieux. Il disait, le royaume de Dieu, il est au milieu de vous. Et les chefs religieux étaient là, mais où? C'était Jésus. Au travers de Jésus, il y a eu irruption du royaume de Dieu. Au travers de l'Église, il y a expansion du royaume de Dieu. Jésus a dit, chassez les démons, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux et dites-leur, le royaume des cieux s'est approché de vous. Alléluia. Amen. Le royaume de Dieu est pour ceux qui s'en emparent. Le royaume est à notre disposition. Et dans ce royaume, il y a des grâces, il y a des manifestations de la puissance de Dieu, il y a des provisions surnaturelles, il y a des miracles, il y a des grâces excellentes, des dons parfaits. Alléluia. Toute grâce excellente, tout don parfait, descende d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Amen. Ouh, alléluia. Le ruisseau de Dieu est plein. Jésus a dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Dieu soit béni. Le royaume de Dieu est pour ceux qui s'en emparent. Amen. Nous avons là l'identité du croyant, c'est un guerrier, il s'empare. Il y a, je me souviens d'une campagne à Madagascar, nous avions financé la publicité, mis les affiches, les spots à la radio, à la télévision, et j'arrive à Antananarivo, et en arrivant à la capitale, les pasteurs m'accueillent dépités. Pasteur, la campagne va être annulée. Je dis, mais pourquoi? Eh bien, parce que le gouvernement refuse la mise en place de cette campagne, tout simplement parce que le président a son palais juste à côté du Colisée dans lequel vous allez faire votre campagne. Et comme le président travaille, la campagne va faire trop de bruit, ça va déranger le chef d'État. Ouh. Je dis, comment? Non, c'est pas possible. Il me dit, si, pasteur. Je dis, non. Quand je suis sorti de l'aéroport, j'ai croisé le président. Et on m'a appris que le président partait pendant toute la semaine. Donc, ce n'est pas possible. Fake news. C'est faux. C'est de l'opposition contre la campagne d'évangélisation. Immédiatement, je suis allé rencontrer le chef de la ville, le maire. J'arrive dans le bureau du maire, je parle à la secrétaire et je dis « Bonjour, madame, je voudrais voir le maire. » Elle me dit « Qui êtes-vous ? » Je dis « Je suis l'évangéliste Franck Alexandre. » Et là, tout à coup, j'ai vu dans son regard qu'elle savait certaines choses et j'ai compris qu'il y avait manigance derrière. Et je lui dis, je voudrais voir le maire, j'ai besoin de discuter. Écoutez, monsieur le pasteur, elle était très embarrassée, elle me dit, le maire n'est pas là. Ah, mais il revient, elle me dit, dans quelques heures. Donc, vous pouvez vous en aller, il n'est pas là. Je dis, mais non, ne vous inquiétez pas, je vais l'attendre. Et je me suis mis juste dans le fauteuil, juste à côté de la porte du bureau du maire. Mais ce que j'ignorais, c'est que le maire était dans son bureau. Et à cause de moi, le maire ne pouvait plus sortir de son bureau. Et moi, assis dans le fauteuil, je priais en langue. Je dis, Seigneur, ça n'est pas possible. Nous avons investi des milliers d'euros. Il y a 10 000 personnes qui vont venir remplir cet endroit. Ils vont arriver devant une porte qui va être fermée. Nous n'avons pas les autorisations. Et pendant plusieurs heures, je marchais. La secrétaire me disait, mais monsieur le pasteur, allez-vous-en. Je dis, non, mais le maire va revenir. Je vais l'attendre, ça ne me gêne pas, vous savez. J'ai toute ma journée. Je suis là, je ne vous dérangerai pas. Je vais prier, je parle en langue. Et après 2 heures, la porte s'est entrebâillée. Et un œil a boqué comme ça. C'était le maire. Et la secrétaire m'a dit, entrez. Alors j'entre dans le bureau du maire et je découvre qu'il est là, en effet. Je me trouve face à lui, embarrassé dans son fauteuil. Je dis, monsieur le maire, je viens d'apprendre que nous n'avons plus les autorisations pour notre campagne d'évangélisation. Il me dit, oui, le président. Il faut qu'on en parle du président. Je dis, le président n'est pas là. Il était embarrassé. Et je lui dis, vous savez, je suis évangéliste, protestant, pentecôtiste, évangélique. J'ai plein d'amis à Madagascar qui tiennent des hôpitaux, qui tiennent des dispensaires, des infirmeries, des œuvres sociales, des ONG. Ce sont tous mes amis. Monsieur le maire, quand ils vont apprendre qu'à Madagascar, on a empêché l'évangéliste de faire sa campagne d'évangélisation, ils vont être très déçus. Monsieur le pasteur, de quoi avez-vous besoin? Je lui dis de prêcher l'évangile de mercredi jusque samedi soir. Il me dit, combien d'heures? 24 heures sur 24, je lui ai dit. Il m'a dit, d'accord. Il a appelé les secrétaires, il décroche, il appelle le préfet en face. Monsieur le préfet, il faut recevoir tout de suite l'évangéliste. Il me dit, ça se passe en face maintenant, traversez la rue. Je sors, j'arrive dans le bâtiment d'en face. Le bureau du préfet était ouvert, il y avait au moins 6 secrétaires alignés avec des carnets dans la main. Et le préfet me reçoit et il me dit, de quoi avez-vous besoin, monsieur le pasteur? Du Colisée, de mercredi jusqu'à samedi soir pour y prêcher l'évangile, et j'en ai besoin 24 heures sur 24. Prenez note, mesdemoiselles. Et donc, elles ont toutes pris note, et après quelques minutes, je suis ressorti du bureau avec l'autorisation de pouvoir prêcher l'évangile du mercredi jusqu'au samedi. J'étais arrivé le lundi, le mercredi, la sono était mise le matin. À 14h, la campagne était ouverte et nous avons eu 10 000 personnes qui sont venues pour écouter l'évangile. Alléluia. Nous avons eu dès le premier jour 130 guérisons divines. 130 personnes délivrées de leur maladie. Une femme qui avait été victime d'un accident est allée dans la semaine faire des radios. Elle a montré les radios. Cette femme était complètement réparée, redressée par la puissance de Dieu. Dieu est capable. Mais le royaume de Dieu est pour ceux qui s'en emparent. Et vous êtes des guerriers dans la foi. Amen, c'est votre identité. Ça fait partie de votre identité. Gloire à Dieu. Regardez dans Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, vous avez votre description faite par l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui disait « J'ai combattu le bon combat. » Amen. « J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » L'apôtre Paul qui disait au jeune serviteur Timothée « Combat le bon combat de la foi. » Amen. En employant le terme guerrier, nous n'avons pas un esprit guerrier en nous, rassurez-vous. Nous ne sommes pas des gens belliqueux. Mais nous saisissons la pensée de l'esprit que le guerrier dans la foi, c'est quelqu'un qui s'empare, qui va au combat, qui a compris que la vie chrétienne est un combat. Et là, dans Éphésiens chapitre 6, verset 10, l'apôtre Paul déclare « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps. Amen. Amen. En tout temps. Répète-le. En tout temps. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Amen. Comme je le disais hier soir, voilà ce que Paul voit quand il voit le chrétien accompli. Ne commencez pas à vous tracasser la tête en vous disant, Seigneur, je dois me convaincre qu'il faut que quand je veux évangéliser, je dois mettre mon casque du salut. Quand je veux faire quelque chose pour toi, Seigneur, faut que j'enfile maintenant, que je mette la ceinture de la vérité, faut que j'enfile la cuirasse maintenant. N'essayez pas de vous convaincre, n'essayez pas de vous habiller comme cela. Non. Vous êtes en quelque sorte, comme je le disais tout à l'heure, quand j'étais à l'armée, il m'est arrivé d'être en DO. On appelait ça la DO, la disponibilité opérationnelle. Et pendant quelques jours, nous étions habillés, nous étions dans notre treillis, nous avions l'arme automatique, à l'époque c'était le FAMAS, et puis 24 heures sur 24, on était en uniforme. Même la nuit, on dormait habillé. À l'époque, on était en Allemagne, il y avait les menaces d'attentats de la bande à Bader, et on devait à tout moment être prêt à nous lever, à prendre les armes, et puis s'il le fallait, nous en servir. On était de disponibilité opérationnelle, nous étions en uniforme 24 heures sur 24. Et quand Paul voit cette vision, quand il décrit aux Éphésiens cette panoplie du soldat, il est en train de dire, voilà ce que vous êtes dans la foi en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Dans la foi, voilà comment vous êtes. Voilà votre tenue. Voilà votre panoplie. Voilà votre arsenal en tant qu'enfant de Dieu. Vous êtes des guerriers. Vous êtes des soldats. Et il met la foi. Il y a la foi tout au long de ces quelques versets de ce chapitre 6, puisqu'il dit, ayez à vos reins. C'est la foi. La foi, c'est l'action. Seigneur, j'ai à mes reins. Il dit, revêtez-vous de la cuirasse de la justice. Je me revais de la cuirasse de la justice. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi. Je prends le bouclier. Je mets les chaussures. Les verbes sont des verbes d'action. C'est des verbes de foi. Avoir, non. Mais revêtir, mettre, prendre. Ce sont des ordres. Prenez toutes les armes de Dieu. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Il y a principalement des armes défensive, et il décrit l'arme offensive par excellence, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Amen. Il est écrit. Jésus, face au diable, n'utilisait pas une argumentation, une habile argumentation, mais face au tentateur, Jésus disait, il est écrit dans la parole de Dieu. Il est écrit, il est écrit. Est-ce que nous sommes des gens de la parole? Amen. C'est important que nous soyons des gens de la Bible. C'est important que nous ayons une relation avec Dieu au travers de la parole de Dieu. Que nous soyons versés dans les saintes écritures. Que nous soyons comme les Béréens qui vérifiaient si tout ce qu'on leur disait était conforme à ce qui était écrit. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Le diable craint par-dessus tout le croyant, le guerrier qui est animé de l'esprit et qui tient avec fermeté l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Nous avons là la dimension du combat spirituel que Paul exige du croyant. C'est ce qu'il déclare aux Éphésiens. Il dit voilà, fortifiez-vous dans le Seigneur. Soyez forts dans le Seigneur, soyez revêtus. Mais quand c'est fait, quand tu as réglé l'affaire de tout cet arsenal, de ces accessoires, alors tu es revêtu, tu dois demeurer revêtu. Amen. Ça n'est plus à faire. Tu ne dois pas te convaincre tous les matins en te disant « Ouh, faut que je me dépêche. Ouh, faut, oh, ah, je vais au combat. Oh, j'ai oublié le bouclier. Attendez, pasteur, j'arrive. Oh, mince, les chaussures. » Non, vous n'avez pas besoin de vous convaincre tous les matins pour aller au combat. Vous êtes revêtu. Amen. Je suis revêtu. Amen. Nous avons là toute la description. La vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Qu'est-ce que la vérité? Jésus. Amen. C'est lui la vérité. La vérité, ce ne sont pas des lois, des règles, des préceptes. Non, la vérité, c'est une personne. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité. La vérité, amen, pour ceinture. Amen. Ensuite, il dit, la cuirasse de la justice. La justice de Christ, elle est comment? Elle est parfaite. Satan essaiera toujours de chercher le défaut à la cuirasse pour remettre en question la justification que nous avons reçue par la foi en Jésus-Christ et par la grâce de Dieu. La justification me déclare juste. Amen. Parce que Jésus est mort sur la croix, qu'il a versé son sang, le sang de Jésus m'a lavé de tout péché, je suis déclaré juste. Quand le Père me voit, il me voit au travers de l'œuvre accomplie par Jésus en faveur de mes péchés. Amen. Quand il me regarde, il voit la justice de Christ avec laquelle le Saint-Esprit m'a revêtu. Il me regarde, il ne me voit pas seulement moi avec mes péchés, mais il me voit dans ma nature pécheresse, mais avec la grâce qui est venue couvrir mon existence, la cuirasse de la justice. Amen. Dieu soit loué. Satan essaiera toujours de remettre en question. Mais es-tu vraiment pardonné de tes péchés? Mais es-tu vraiment sauvé? As-tu vraiment la vie éternelle? Vas-tu vraiment aller au ciel? Non. La foi ne consulte pas sa chair. La foi ne consulte pas ses sensations. La foi est encastrée dans le roc qui est la parole de Dieu. Alléluia. Il est écrit. J'ai été justifié par le sang de Jésus. Je suis sauvé et j'ai la vie éternelle. Et si quelqu'un a péché, nous dit la Bible, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Nous pouvons confesser nos péchés. Il est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Oui, la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice, le zèle, la chaussure du zèle de l'évangile. Est-ce que nous avons mis nos chaussures? Vous savez que les sandales des Romains étaient munies de crampons pour bien accrocher sur le sol au moment du combat. C'est important parce que si on n'a pas les bonnes chaussures pour aller au combat, on risque de faire face à quelques problèmes parce que l'évangélisation, la mission de l'Église nous amène à faire face à de véritables ennemis. Dans mon ministère, je pourrais vous écrire quelques pages sur ce que j'ai eu à souffrir des sorciers, des prêtres ubandistes, des moines bouddhistes habillés couleur safran qui sont pas vraiment zen quand ils sont en colère. Et je passe les détails sur les accidents de voiture en mission au bout du monde, au Pérou, en pleine nuit, ou alors les menaces de mort ou les jets de pierre pendant que vous prêchez l'évangile. Je peux vous assurer qu'il vaut mieux avoir les bonnes chaussures à vos pieds. Amen. Ça n'est pas une promenade de santé, on ne fait pas du tourisme. Les photos que nous mettons dans nos newsletters ne sont pas des photos de plage où on se fait bronzer, si vous voyez ce que je veux dire. Nous, notre décor, ce sont les avions pendant quelques heures, ensuite le contexte du pays dans lequel nous sommes pour aller annoncer l'évangile. Amen. Le bouclier de la foi, Hébreux 11, versets 1 à 3. La foi est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Amen. La foi est... Romains 10, la foi vient de, elle vient de la parole de Christ. Pasteur, j'ai pas la foi, mais tu lis pas la parole. Si tu lis pas la parole, tu n'auras pas la foi. Parce que la foi vient elle ne peut pas être si elle ne vient pas d'eux. Mais quand elle vient d'eux, alors elle est. Amen. Dieu soit béni pour la foi. Le bouclier de la foi. Le casque du salut. Amen. Le casque du salut. Quelles que soient les situations que je peux traverser, quelle que soit l'opposition, même s'il fallait payer le prix fort pour l'évangile, je sais que le casque que j'ai sur ma tête, c'est le casque du salut. Et s'il me faut entrer dans l'éternité, je sais que ma destination éternelle, c'est le ciel. Amen. Amen. Gloire à Dieu. L'épée de l'esprit, on en a parlé. La réalité du combat, Paul le dit, versets 12 à 13. Le combat est une réalité, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Mes amis, quand l'Église n'évangélise plus, elle se trouve d'autres ennemis. Ça va être le pasteur, ça va être l'ancien, ça va être le frère, ça va être la sœur. Les gens se dévorent les uns les autres quand il n'y a plus de vision. Le peuple périt, il tombe dans la chair. Mais lorsque l'Église est missionnaire, lorsque l'Église a compris quelle est sa vocation et qu'elle contribue à l'expansion du royaume de Dieu, alors les chrétiens sont aspirés dans cette œuvre glorieuse de l'évangélisation. Ils ne pensent qu'à une chose, c'est arracher les âmes au seul ennemi qui est le plus terrible dans l'Église, Satan. Amen. Et Paul est en train de le dire, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. Tu n'as pas à lutter contre ton frère ou contre ta sœur. Vous ne devriez pas lutter contre un frère ou une sœur, ni contre un pasteur. Vous devriez lutter contre les puissances de ténèbres. Voilà quelle est votre vocation. Voilà comment Paul nous voit comme des guerriers au service de l'Évangile pour l'expansion du royaume de Dieu. Amen. Dieu soit béni. Quand je suis allé à la mission au Burkina en décembre 2018, une semaine avant de partir, en pleine nuit, j'ai été réveillé en sursaut et j'ai vu un démon. Vous savez, heureusement, je ne vois pas les démons toutes les nuits, rassurez-vous. Non. Il m'est arrivé d'avoir des visions de révélation de combat. Mais là, j'ai vu, c'était devant mes yeux, ça a duré 2 secondes. Et bam, je sais comment il est, à quoi il ressemble. Il m'a frappé de plein fouet. Le lendemain, la nuit, à la même heure, je suis tombé dans ma chambre. On m'a emmené en urgence à l'hôpital. Et les médecins disaient que j'étais en train de mourir. Oui, les médecins disaient. Et moi, je commençais à me sentir mieux. Je dis au médecin, il faut que je parte. Il dit, non, monsieur Alexandre, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Je dis, les résultats nous montrent que vous êtes en train de mourir. Je dis, quoi? Je lui dis, mais non, je ne peux pas mourir, je n'ai pas le temps de mourir. J'ai un avion à prendre, je suis attendu au Burkina Faso, je dois prêcher sur une estrade au cœur du désert, près du lac de Kongoussi. Je dois prêcher là-bas, mercredi soir, il me dit non, vous n'allez pas sortir, on doit faire scanner, IRM, tout doit y passer. Et vous allez rester toute la semaine en examen parce que les résultats nous montrent que vous mourrez. Je dis non, je peux pas, j'ai pas le temps. Et je me suis retrouvé dans ma chambre comme ça. Et puis les examens s'enchaînaient les uns après les autres et finalement le médecin m'a dit, vous ne mangez plus, vous ne buvez plus, vous êtes... Je dis, j'étais dans le jeûne et la prière. Amen. Et tout à coup, j'ai réalisé que j'étais dans le jeûne et la prière. Et tout à coup, cette sorte de démon ne part que par le jeûne et la prière. Je dis, Franck, tu ne jeûnes pas assez. Tu ne combats pas suffisamment dans le jeûne et la prière. Tu manges trop. Frères et sœurs, on mange trop. On ne jeûne pas suffisamment. Nous n'avons pas suffisamment de vie intense. Et les médecins ont fait les examens. Et à la fin, ils m'ont dit, on ne comprend pas ce qui vous est arrivé. Mais moi, je dis, j'ai compris ce qui s'est passé. Et il me dit, écoutez, si tout va bien avec l'examen de cet après-midi, vous sortez demain, c'était le dimanche. J'avais été hospitalisé dans la nuit du jeudi au vendredi. Et le dimanche, je suis sorti alors que toute la semaine, j'étais censé rester à l'hôpital. Mais Paul le dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits mauvais. Et là, il y avait un démon. Et à mon avis, c'était une domination. Une puissance, j'ai vu sa force, sa haine, son aspect. Bah, sans aucune pitié, il m'a frappé. Mais Dieu m'a défendu. Dieu m'a défendu. Parce qu'il n'a pas pu frapper mon esprit ni mon âme. Mais Dieu a défendu mon corps. Dieu a défendu ma santé. Dieu s'est battu pour moi. Alléluia. Il a défendu la cause de son serviteur. Alléluia. Et quand je suis arrivé au Burkina Faso le premier soir, en prêchant l'évangile, les gens tombaient dans la foule, les démons se manifestaient. Et je comprenais qu'on avait remporté une bataille dans les lieux célestes. Alléluia. Frères et sœurs, n'ayez pas peur du diable. Craignez Dieu. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. L'enchantement et la divination n'ont pas de pouvoir contre l'Église du Dieu vivant. Nombre 23:23. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Celui qui est en vous est plus fort. Amen. La Bible dit qu'il nous a ressuscités ensemble. La Bible dit encore, il nous a fait asseoir avec Christ dans les lieux célestes. La Bible dit que le monde gît sous la puissance du malin. Mais vous, vous êtes assis avec Christ au-dessus des démons. Et je vois trop de chrétiens qui ont peur des démons. Je le dis souvent, lorsque des bien-aimés ont grandi dans un contexte d'animisme, de fétichisme, comme moi j'ai pu grandir en Europe de l'Ouest dans l'occultisme, on peut grandir avec cette conscience exacerbée de la toute-puissance du diable et perdre totalement de vue que la victoire est en Jésus et que nous avons triomphé. Je remarque qu'il y a trop de chrétiens qui voient le diable partout. Et dès qu'ils ont un problème affectif, c'est un démon. Dès qu'ils ont un problème financier, c'est un démon. Dès qu'ils ont une querelle, c'est un démon. Dès qu'il y a un problème de santé, c'est un démon. Ils voient le démon partout. Alors je ne dis pas que le diable n'est pas à l'œuvre, il est à l'œuvre. Je viens de l'affirmer il y a quelques instants, mais j'aimerais vous dire, bien-aimés, qu'il nous faut avoir la conscience de la toute-puissance de Dieu, d'un Dieu qui est encore plus à l'œuvre que le diable ne peut l'être. Alléluia. Satan est un ennemi vaincu. Peut-être tu étais nourri au biberon avec la sorcellerie. Dès que tu étais petit, que tu avais un biberon, tes parents parlaient du sorcier. Qui avait, dès qu'un lézard qui rentrait dans ta case, on te disait c'est le sorcier qui a envoyé le démon. Donc on grandit avec cela, avec le diable qui est partout, le diable qui possède tout, le diable qui domine tout. Mais béni soit Dieu. La gloire de l'évangile, c'est que Dieu nous dit, il y a des princes des dominations, mais il y a un roi, roi des rois, qui s'appelle Jésus. Et il y a les rachetés, fils et filles de rois, qui sont assis avec le Christ dans les lieux célestes. Alléluia. Et ne viens plus te plaindre auprès du pasteur en lui disant, pasteur, priez pour moi, priez pour moi. Qu'est-ce qui se passe, ma sœur? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, pasteur, il y a une voyante qui vient de louer un appartement au-dessus de la maison et je ne dors plus la nuit. Mais c'est la voyante qui ne devrait plus dormir la nuit. Qui a l'autorité? L'identité détermine la position détermine l'autorité. Dieu soit béni. Amen. Dieu est un guerrier, on l'a chanté. Dieu est un guerrier. Regardez dans Josué chapitre 5, dans votre Bible. Une christophanie, une manifestation du Christ avant l'incarnation. Dans Josué 5, avant la prise de Jéricho, regardez la vision. Josué 5, verset 13. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce mon Seigneur? Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi, on se souvient du buisson ardent et de l'appel de Moïse, où la manifestation de la gloire de Dieu a dit, ôte tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est un lieu saint. Amen. Dieu est un guerrier. Dans Exode 15, dans l'Ancien Testament, regardez dans votre Bible, Exode 15, versets 1 à 6, c'est le cantique de Moïse. Il décrit Dieu comme étant un vaillant guerrier. Oh, hallelujah. Je chanterai à l'Éternel. Exode 15. Car il a fait éclater sa gloire. Dieu soit béni. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force. Confesse-le, l'Éternel est ma force. Et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. Amen. Gloire au Seigneur. Psaume 45, regardez dans votre Bible. Psaume 45. Psaume 45, il est question cette fois-ci du Messie. Psaume 45, versets 1 à 8, il est question d'une prophétie concernant Jésus. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, ceint ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char. Défends la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës. Des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, alléluia, ton trône, ô Dieu, est à toujours le sceptre de ton règne, est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint, c'est Jésus, d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Il est question là de l'onction du Saint-Esprit, alléluia. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Des filles de rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Nous avons une vision si la glorieuse de l'Église de Jésus. Dieu soit loué pour la gloire. Alléluia. Nous avons donc besoin, si Dieu est un guerrier, si le Messie est un guerrier, nous avons besoin de cette onction de guerrier. L'onction du Saint-Esprit va nous remplir, non seulement pour chanter des cantiques. Oui. C'est facile de chanter des cantiques. On a l'onction du Saint-Esprit et puis on chante, alléluia, on chante en langue, gloire à Dieu, amen. Mais on ne paye pas le prix. Dans Actes 1, verset 8, Jésus dit, vous recevrez de la puissance, vous serez mes témoins, littéralement vous serez mes martyrs. Ça veut dire que vous allez recevoir une puissance qui va vous permettre d'endurer les épreuves que vous allez traverser, même l'opposition que vous allez confronter. Le Saint-Esprit nous est donné pour cela. L'onction sera sur vous, elle secouera le joug. L'onction que Dieu vous donne, c'est pour le combat. C'est une onction de combat. Alléluia. C'est une onction pour le combat. Regardez, on connaît, j'en parlais hier soir, j'ai parlé des 12 espions. Sur 12, combien ont été animés d'un esprit de foi? 2. Josué et Caleb. La Bible dit qu'ils étaient animés d'un autre esprit. Concernant David, il n'a pas craint d'aller combattre Goliath. Et dans l'armure de Saül, il était tout sauf efficace. Il était ridicule. Avec sa grande épée, le grand bouclier, la grande cuirasse, le casque, mais avec son bâton, sa fronde et ses pierres, il a terrassé du premier coup Goliath parce qu'il avait cette onction de combat. L'onction du Saint-Esprit nous rend puissants dans les combats. Alléluia. David fut un guerrier. Regardez dans votre Bible, 2 Samuel 5, regardez l'attaque, David était un guerrier, 2 Samuel 5, les Philistins, au verset 17, 2 Samuel 5, verset 17, les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant, « Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel dit à David, « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » David vint à Baal Peratsim, où il les battit. Puis il dit, « L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal Peratsim. » Ils laissèrent leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. Verset 22. Les Philistins montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. Mais que fait David? Il consulte l'Éternel. Il aurait pu attaquer de front les Philistins. L'Éternel dit, tu ne monteras pas, tourne-les par derrière, prends-les à revers et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il battit les Philistins depuis Geba jusqu'à Gezer. Amen. David était un homme de l'esprit. Et dans toutes ses batailles, ses stratégies étaient calées par l'onction du Saint-Esprit. Nous sommes des guerriers loin du Saint-Esprit. Et nous ne pouvons pas évangéliser avec des clichés et des méthodes stéréotypées. Parce que le Saint-Esprit est en opération d'adaptation permanente. En permanence, l'Esprit de Dieu nous rend capables de nous adapter aux personnes que nous voulons évangéliser, aux quartiers que nous voulons atteindre, aux populations que nous voulons atteindre par l'Évangile. Et David avait compris qu'il devait consulter l'Éternel pour savoir quel serait le modus operandi pour telle ou telle bataille. Est-ce que nous avons cette sensibilité au Saint-Esprit ? Nous avons besoin du Saint-Esprit pour évangéliser. D'ailleurs, l'apôtre Paul, si Jésus dit « vous recevrez de la puissance », Paul nous montre que l'Esprit de Dieu est capable de le conduire par révélation. Il lui dit à un moment « passe en Macédoine, passe en Macédoine ». Le Saint-Esprit lui parle. Philippe l'évangéliste, un ange le pousse à l'évangéliser du côté du lieu désert. Et c'est là qu'il se retrouve en compagnie d'un eunuque éthiopien qui va découvrir l'évangile. La parole de Dieu nous montre de nombreuses scènes où le Saint-Esprit revêt de puissance, mais aussi il dirige. Romains 8. Ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Soyons remplis du Saint-Esprit. Soyons conscients de notre identité spirituelle. Le Seigneur va nous installer dans notre positionnement. Nous allons voir cette autorité se manifester et nous serons utilisés comme Ananias a pu l'être, conduit par le Saint-Esprit, pour aller prier pour Saul de Tarse qui est devenu l'apôtre Paul. Alléluia. Il n'y a pas eu besoin d'une grande campagne d'évangélisation pour atteindre Saul de Tarse. Non, il a suffi d'un disciple. Dieu soit béni pour les grandes campagnes, il en faut. Mais Dieu veut utiliser chaque disciple afin qu'il soit un instrument pour gagner des âmes à Jésus. Et c'est le Saint-Esprit qui veut utiliser. Jésus a mené son combat, et je terminerai par là. Jésus, c'est le guerrier qui est venu du ciel. Amen. Il est venu du ciel sur la terre, dans l'arène d'un monde marqué par la corruption. Et là, il a affronté la puissance de Satan. Il a affronté à la croix. En fait, il s'est présenté devant Satan et il a dit « Vas-y !» Il a porté nos péchés. Satan, les légions, les puissances de l'enfer ont voulu détruire Jésus. Jésus s'est livré à la croix. Mais comme il n'y avait pas un seul péché en lui, le diable n'a eu aucun pouvoir sur lui. Et par la faiblesse de Dieu, parce que la Bible dit que la croix c'est cette faiblesse d'un homme qui meurt sur une croix, elle devient puissance de Dieu. C'est pourquoi la prédication de la croix c'est la puissance de Dieu. Parce qu'au travers d'un homme qui est mourant, Dieu donne la victoire à l'humanité. Un homme agonisant devient le conquérant aux pieds ensanglantés, les pieds percés, le côté percé, couronné d'épines, les mains percées, le sang de Jésus triomphe de toutes les puissances infernales, de toute la puissance du péché, de la mort et du jugement. Amen. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il a dépouillé les dominations, les puissances, les principautés, les autorités, il les a livrées publiquement, en spectacle triomphant d'elles par la croix. Un homme agonisant triomphe. Alléluia. Un homme agonisant a triomphé. Jésus le Fils de l'homme, Jésus le Fils de Dieu, est mort sur la croix, et il a gagné la bataille, il est descendu dans l'arène pour nous, et il a vaincu les puissances infernales. Dieu soit loué. On peut l'acclamer, oui, on peut l'acclamer. Tu as raison, peuple de Dieu. Il a gagné. Il a gagné. Oh, alléluia. Et le troisième jour, le prince de la ville est sorti du tombeau parce que la mort n'avait pas le pouvoir de le retenir. Et le prince de la mort, lui aussi. Et cette Bible dit qu'il a écrasé la tête de Satan. La Bible dit qu'il a lié l'homme fort. La Bible dit qu'il a vaincu celui qui a le pouvoir de la mort. La Bible dit qu'il a dépouillé, il a gagné, il est vainqueur. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il est ton roi, il est ton Dieu. Il est le roi des rois. Roi des rois, alléluia. Roi des rois. Il est, selon Hébreux 2, 9 à 10, il est élevé, couronné de gloire. Alors, je terminerai par là. Mets ton armure, enfant de Dieu. Revêt-toi et ne te laisse pas dévêtir de cette autorité qui est la tienne. Tu as une identité, elle détermine ta position spirituelle et elle détermine aussi ton autorité dans la vie chrétienne. Ne te laisse pas dépouiller. Non, Satan est dépouillé. Ne te laisse pas dépouiller. Satan est dépouillé. Ne te laisse jamais dépouiller. Satan, lui, est dépouillé. Il est déjà jugé. Dieu soit béni. Résiste au diable. Résiste à la tentation. Triomphe de la chair par la vie de l'esprit. Amen. Galates 5, 24. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Ça veut dire quoi, ceux qui sont en Jésus-Christ? Ceux qui ont revêtu Christ. Ceux qui ont mis l'habit de Christ. Ceux qui se sont placés sous l'autorité du roi des rois, Jésus-Christ. Alléluia. Ceux-là, ils ont triomphé de la puissance du malin et leur chair est crucifiée. Amen. La chair ne s'exorcise pas. N'allez pas voir le pasteur pour dire, pasteur, j'ai des problèmes avec tel, dans tel domaine, chassez-moi ce démon-là. Pasteur, je mange trop, chassez-moi ce démon. Non. La chair ne s'exorcise pas. Elle se crucifie. Amen. Ayant crucifié la chair avec ses désirs et avec ses passions. Marchez par l'esprit. Toujours Galates 5, dans le même chapitre. Marchez par l'esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc ne vous faites pas chasser des démons. Non. Marchez par l'esprit, c'est le meilleur remède. On ne chasse pas des ombres. Non. On marche par l'esprit. Et on va voir les perdus là où il y a vraiment les démons. Et là où les gens sont vraiment possédés, on les délivre au nom de Jésus. Et là, c'est pas des ombres qu'on chasse, c'est des vrais démons. Furieux, terribles, haineux. Ah, mauvais. Mais Jésus les a vaincus. J'étais à Bordeaux il y a quelques mois, et dans la réunion, un possédé s'est manifesté. Ils l'ont sorti de la réunion, ils l'ont emmené à l'étage dans une pièce pour chasser le démon. Et puis dans le coffee bar en bas de l'église, on m'a servi un petit café, et ensuite... On est venu me dire, le pasteur aimerait parler avec vous, frère Alexandre. Il vous attend à l'étage, dans son bureau. Donc, je laisse mon café, je pars à l'étage. Et arrivé à l'étage, j'entre dans le bureau du pasteur, on parle un peu ensemble. Et tout à coup, deux frères rentrent dans le bureau. Ils étaient en train de chasser les démons dans quelques pièces, toujours au même étage, au premier étage. Et les frères disent, frère, pourriez-vous nous aider parce qu'on n'arrive pas à chasser ce démon-là. Bon, le pasteur me dit, Franck, veux-tu y aller? Bien sûr, j'y vais. Donc, je vais avec les deux frères, on arrive devant le possédé. Et dès qu'il me voit, ses yeux sont exorbités. Ah! On voit qu'il m'aime pas beaucoup. Et, il commence à m'injurier et à vociférer contre moi. Je le réprime au nom de Jésus. Et à un moment, le démon parle et il dit, laisse-moi tranquille. Descends au rez-de-chaussée. Ils sont en train de te préparer un café. Va boire ton café. Ah, j'ai dit, démon, tu sais que j'aime le café. Eh bien, écoute-moi, je vais aller boire mon café. Mais avant d'aller le boire, tu sors. Et le démon est parti, l'homme a été délivré. Et je suis allé boire tranquillement mon espresso. Amen. Parce que nous avons l'autorité dans le nom de Jésus. Amen. Il y avait un vrai démon. L'homme a été délivré d'années de possession par la puissance de Dieu. Jésus a dit, chassez les démons. Guérissez les malades. Et aujourd'hui, il nous dit, priez aussi pour le baptême dans le Saint-Esprit. Soyez remplis. On va terminer par là. J'aimerais vous inviter à recevoir l'onction, cette onction de guerrier. C'est une onction qui va vous amener plus loin que chanter les cantiques à l'église, même si c'est honorable, c'est louable et Dieu veut être glorifié. Mais Dieu désire que son royaume s'étende. Il veut plus que des louanges. Il veut que son royaume s'étende et que des multitudes soient sauvées. On se lève ensemble. Amen.